Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Au Mali, les recherches continuent pour retrouver les soldats maliens dispersés pendant la bataille de Tabankor lundi et toujours portés disparus. Le tout dernier bilan de cette embuscade tendue à une patrouille militaire malienne près de la frontière du Niger. 30 soldats maliens tués, selon une source sécuritaire. 30 corps de militaires tombés au cours de la mission dans le secteur de Tabankor, région de Ménaka, sont arrivés mardi à la mi-journée à Gao dans le nord, en provenance de Niamey au Niger, précise cette même source. L'armée malienne avait fait état précédemment d'un bilan de 24 militaires tués. Et toujours concernant les violences dans le Sahel, le Burkina Faso est désormais entièrement déconseillé, sauf raison impérative ou formellement déconseillé par le ministère français des Affaires étrangères. Ce pays jadis prisé par les touristes est en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le Quai d'Orsay a actualisé sa carte de conseil aux Français qui veulent se rendre au Burkina. La zone rouge formellement déconseillée a été étendue à tout le nord, l'est et les frontières ouest. Le reste du pays est une zone rouge, c'est-à-dire déconseillée sauf raison impérative. Jusqu'à récemment, le centre du Burkina et la capitale Ouagadougou étaient en jaune qui appelait à la vigilance renforcée. Les attaques attribuées à des groupes djihadistes ont fait près de 700 morts depuis début 2015 et quelques 500 000 déplacés internes et réfugiés. La détérioration sécuritaire au Sahel est très préoccupante. L'épicentre de l'insécurité était auparavant au Mali. Aujourd'hui, le Burkina Faso est au cœur du conflit, a estimé hier Patrick Youssef, directeur adjoint du CICR pour l'Afrique, lors d'une conférence de presse au Forum de Dakar sur les questions de sécurité.
Violence en République démocratique du Congo, manifestation de la population ce mercredi à Beni, grande ville du nord qui vaut dans l'est du pays, pour protester contre les deux nouvelles attaques des rebelles ADF, les forces démocratiques alliées, qui ont coûté la vie à au moins 10 civils dans la région mardi soir. Les protestataires ont particulièrement critiqué la MONUSCO, la mission onusienne sur place. Beni a été attaqué directement par les ADF hier pour la première fois depuis octobre 2018. Au moins 7 résidents ont été tués et plusieurs autres auraient été kidnappés par les assaillants. D'autres civils auraient été abattus lors d'une seconde attaque à Oicha, plus au nord. Selon les observateurs, il s'agirait d'opérations de représailles des ADF pour décourager les populations civiles de collaborer avec les FARDC, l'armée nationale congolaise. Au total, au moins 60 personnes ont été massacrées dans la région de Beni depuis l'annonce le 30 octobre d'opérations militaires de grande envergure des FARDC contre les bases des ADF dans la région. Toujours dans l'est de la RDC, un milicien a été condamné hier à la perpétuité pour de nombreux viols et meurtres en 2018. La fondation Panzi du prix Nobel de la paix Denis Mukwege était partie civile à ce procès. Les détails avec Eddy Sango.
Frédéric Massoudi Alimassi, dit Coco di Coco, a été reconnu coupable des crimes contre l'humanité par viol, empoisonnement, torture, meurtre, esclavage sexuel, disparition forcée, a indiqué le président d'un tribunal militaire à Bukavu. Il est le chef des Mai Mai Raye Amutomboki, l'une des dizaines de milices armées qui terrorisent les civils dans les deux Kivu depuis 25 ans. Deux autres miliciens ont été condamnés à 15 et 20 ans de prison. Deux prévenus ont été acquittés. Nous irons en appel à la cour militaire du Sud Kivu, a déclaré l'une des avocates des prévenus, Maître Esther Bachougui. Dans la nuit du 8 au 9 février 2018, Massoudi Alimassi et ses miliciens ont fait irruption dans les villages de Kabikokole, dans les territoires de Shabunda. Ils ont pris en otage à plus d'une centaine de femmes pour les violer l'une après l'autre, affirme la fondation Panzi du docteur Mukwege. Le procès a été ouvert le 12 septembre, moins de deux ans après les fêtes, dans une région où de nombreuses ONG locales et étrangères tentent de lutter contre l'impunité.
Corne de l'Afrique, en Éthiopie, les membres de l'ethnie Sidama votent ce mercredi pour leur autonomie. Les opérations de vote ont débuté dans le calme à l'occasion du référendum de l'ethnie Sidama qui doit se prononcer sur la création de sa propre région au sein de l'État fédéral éthiopien. Quelques 2 300 000 électeurs sont appelés aux urnes et le scrutin mobilise la population de la capitale régionale Hawassa, en jugé par les longues files d'attente qui se sont formées dès l'ouverture des bureaux de vote à 6 heures, heure locale.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Relations États-Unis-Cameroun maintenant. Washington a appelé mardi à un vrai dialogue et à un transfert de pouvoir via les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. L'administration américaine estime que la réponse militaire privilégiée par le gouvernement de Yaoundé ne fait que renforcer les séparatistes anglophones. Les précisions avec Jacques Aristide.
Lors d'une audition parlementaire à Washington hier, le secrétaire d'État américain adjoint aux affaires africaines, Tibor Nage, a déclaré que les conseillers du président camerounais, Paul Biya, lui faisaient miroiter une victoire militaire. Pour le diplomate américain, la vérité c'est qu'il n'y aura pas de victoire militaire, dit-il, au conflit qui oppose les indépendantistes anglophones à l'armée. Chaque jour, davantage de Camerounais qui étaient probablement au départ des Camerounais très loyaliste, commence à se dire que la sécession est peut-être la bonne solution, a-t-il déploré. Tibor Nage a également relativisé le succès du grand dialogue national tenu début octobre par Yaoundé pour tenter de résoudre la crise marquée par le boycott des principaux groupes indépendantistes. Il doit y avoir un vrai dialogue et il doit y avoir un transfert de pouvoir vers ces régions. Il faut quelque chose qui ait suffisamment d'intérêt pour ceux qui sont encore dans le camp des modérés, plaide-t-il. Le conflit anglophone dans ce pays majoritairement francophone a fait plus de 3000 victimes en 2 ans.
Actualité américaine toujours, l'enquête actuelle des députés de l'opposition démocrate majoritaire à la Chambre des représentants au Congrès des États-Unis sur une éventuelle procédure de destitution contre le président américain Donald Trump ne fait pas débat seulement aux États-Unis. Au Togo, par exemple, certains étudiants fascinés par la politique américaine suivent de près ses développements. Pendant que les uns se mettent dans la peau des démocrates, les autres, sans pour autant se réclamer du camp républicain, mettent en garde contre le fait que le président Trump pourrait tirer avantage de la procédure en cours au Congrès américain. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kylie Lawson.
À l'American Corner de l'Université de Lomé ce jour, un groupe d'étudiants est en plein débat. Le sujet de discussion, la procédure de destitution du président américain Donald Trump. Samuel Anna analyse à sa manière la dite procédure.
C'est une procédure qui est en train d'expulser le président de telle manière qu'il ne puisse pas postuler pour le prochain mandat. Si cette stratégie a été mise en place, c'est parce qu'ils ont constaté qu'ils ont eu des problèmes diplomatiques et du coup Donald Trump ne pourra pas les aider à pouvoir l'arranger. C'est pourquoi cette stratégie a été mise en place pour que le président soit enlevé.
Donald Trump n'a pas sa place à la tête d'une puissance comme les États-Unis, soutient Farida et son Ourodoni.
Toutes les décisions que Trump et son gouvernement ont prises depuis 2016, je crois qu'il y a plusieurs décisions qui nuisent, non seulement aux États-Unis, mais aussi au monde entier. Et tout le racisme, le sexisme, la misogynie qu'il prône. Donc, une personne comme ça ne devrait pas être à la tête de la première puissance au monde.
Pour l'étudiant Marcel Aminke, cette procédure est l'œuvre du camp démocrate pour ternir l'image de Donald Trump.
Le Parti démocrate a trouvé une opportunité encore décrédibiliser ce président. Je pense qu'ils essaient de juger le président alors que nous n'avons pas de claire évidence qu'il a vraiment commis ses actes. Ils ont peut-être peur que M. Donald Trump soit encore élu. Donc ils essaient de le discréditer devant son électorat.
Un autre étudiant, Yehouza Ahmed, qui épouse la théorie avancée par Marcel, estime que la procédure pourrait tourner à l'avantage de Donald Trump.
Si les démocrates agissent autrement pour le destituer, il risque aussi que le gars revienne dans son deuxième mandat pour continuer parce qu'il va profiter de cela pour être réélu pour le deuxième mandat.
Benjamin Koglé affirme ne guère être surpris par cette procédure, car selon lui, Donald Trump serait un président par défaut.
C'est un président qui n'était pas vraiment accueilli par la majorité de la population du monde qui ne s'attendait pas à voir Trump comme président. Avec son arrogance, il expose un abus de pouvoir.
Le président américain Donald Trump est visé par une procédure de destitution lancée par les démocrates qui l'accusent d'avoir abusé de son pouvoir en demandant à l'Ukraine d'enquêter sur le démocrate Joe Biden en vue de la présidentielle de 2020. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.